prothèse
qui va vous faire les lectures. Je m'économise.
Je te conseille un entretien avec Francine juste après.
C'est l'art de dire des mots gentils. Quand on n'est pas poète.
C'est pas péjoratif.
Non, c'est calviniste.
Bon, heureusement qu'elle me... On lui tira parler à Francine, c'est ça. Alors, il y a trois lectures ce matin. Mais bonjour d'abord à tout le monde. Trois lectures. Une dans le livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 5 et verset 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi. Va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Maintenant, une lecture dans Corinthiens, chapitre 7, 29 à 31. Voici ce que je dis, frères et sœurs, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet à la mer car il était pêcheur. Jésus leur dit: « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent.
Merci. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons accueillir ta parole, que ton esprit nous y conduise, qu'il nous éclaire et nous convainque. Je veux aussi te prier, Seigneur, pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir ce matin se joindre à nous. Et nous te prions de les bénir là où ils sont. Merci parce que ton esprit est ce lien invisible qui fait de nous une famille. Au nom de Jésus, amen. Voilà, vous avez peut-être remarqué que dans ces trois textes, il est question du temps. La notion du temps, du déroulement de l'histoire. chez Jonas, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Sous la plume de l'apôtre Paul, désormais, le temps est court. Et dans la bouche de Jésus, dans sa prédication, il dit « les temps sont accomplis ». J'ai trouvé ça intéressant. 40 jours, c'est court. Surtout pour quelqu'un qui vient de faire environ 1000 km à pied, vers le nord de l'Irak actuel, vers Ninive. Et j'ai trouvé quelque chose d'étonnant, c'est que dans, vous connaissez la revue Portes Ouvertes, et il y a un calendrier de prières pour toutes les églises persécutées. Et aujourd'hui, nous sommes invités par cette liste à prier pour les chrétiens d'Irak. Eh bien, on va le faire. On va le faire afin que nos frères et nos sœurs en Christ de ce pays puissent être en ce temps des reconstructeurs du pays. Nous ne savons pas exactement la proportion de chrétiens qu'il y a encore en Irak, mais ils y sont actifs et nous voulons demander au Seigneur maintenant de les bénir. Qu'est-ce qui veut se lever et prier pour les chrétiens d'Irak? Allez, Michel, s'il te plaît. Oui, c'est tout. Oui. Amen. Oui, Seigneur. Oui. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. À Ninive, les temps approchent, la fin approche dangereusement. Le temps s'est comprimé tout à coup, il y a urgence. Que vont faire les Ninivites? La proclamation de Jonas n'offre apparemment aucune raison d'espérer. C'est lourd. Dans 40 jours, Ninive est détruite. Or, Jonas est à peine au bout d'un jour de marche, puisque la ville est très grande, hein, que déjà, un réveil des consciences a lieu et des dispositions sont prises. C'est incroyable, cette histoire. Enfin, c'est incroyable. Oui, justement, il faut le croire. Jeûne, manifestation d'une sorte de deuil sur eux-mêmes, en prenant le sac et la cendre, jusqu'au roi de Ninive. D'ailleurs, il fait une proclamation, ça va des versets 7 à 9, que je vais vous lire. C'est intéressant. « Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent rien, ne paissent pas, ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne mourrions pas. Alors ça, c'est fort. Demandez que reviennent de leur mauvaise voie les bœufs, les brebis, les animaux, c'est dire l'écho profond que la parole de Jonas a éveillé chez ce roi. Mais ce qui est remarquable dans sa prière, c'est qu'il y a comme un soupçon d'espérance. Qui sait ? Et j'aime cette pensée. Il se dit que si Dieu a pris la peine de nous envoyer son messager, c'est qu'une possibilité de changement existe chez ce Dieu-là. Nous avons ici toute la différence entre une prédiction et une prédication. Une prédication laisse la porte ouverte à, comme disait Jésus, tout est possible à Dieu. Les disciples avaient demandé, mais qui peut être sauvé ? Et Jésus a répondu, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Non, tout n'est pas figé dans le malheur qui s'annonce. Est-ce que cela ne nous fait pas du bien quand nous considérons l'époque que nous sommes en train de vivre ? Le temps est court, dit Paul aux Corinthiens. André Chouraqui traduit ainsi, « Le temps a cargué les voiles. » Nous sommes près de l'Orient, la cité de la voile. Voilà. « Le temps a cargué ses voiles et pour ceux qui en restent de ce temps-là, ceux qui ont des femmes, qu'ils soient comme s'ils n'en avaient pas. » Ouï, ouï, ouï. Est-ce que c'est un appel à l'indifférence, au mépris ? Non. Est-ce un appel au divorce ? Sûrement pas. Parce qu'il continue et dit qu'il soit comme s'il n'en avait pas, les pleureurs comme si ceux qui comme s'ils ne pleuraient pas, les joyeux comme s'ils ne se réjouissaient pas, les acheteurs comme s'ils n'avaient rien, etc. Donc il y a quand même quelque chose à comprendre là. Le voilier de l'histoire est prêt à appareiller. Il y a de l'agitation fébrile sur les quais. L'heure est aux arrachements. Il ne s'agit pas de s'encombrer de choses trop pesantes. Là, je ne parle pas des femmes, hein. Attention. Il s'agit d'établir une certaine distance avec tout ce qui fait le tissu de nos vies. Parce qu'un temps neuf est déjà à l'œuvre. Un temps nouveau travaille en profondeur notre monde. Et ceci nous permet, j'ai presque envie de dire, d'avoir un peu d'humour sur ce qui nous semble tellement sérieux, tellement important, essentiel. Essentiel. Il y a eu débat au gouvernement surtout chez les gens de la culture qui se sentent tellement méprisés. Est-ce que la culture fait partie des choses essentielles. Mais oui. Et je suis heureux d'entendre un certain nombre de journalistes rappeler que l'être humain n'est pas qu'un estomac, un tube digestif, mais qu'il est un être de relation, qui a besoin de rêves, de culture, bref, qui a besoin de tout ce que l'Évangile nous donne, justement. Paul dit « désormais », et ce mot est encore un terme qui évoque le temps, « désormais », qui me semble vouloir dire « par conséquent, depuis un événement précis, vous les croyants en l'évangile de Dieu, discernez le changement de cap de l'histoire. Discerner qu'un horizon nouveau s'est révélé par la venue de Jésus et la prédication chrétienne. En effet, jusqu'à la venue de la foi, jusqu'à la venue de la confiance en Jésus-Christ, jusqu'à ce moment-là, l'histoire ressemblait à un cycle immuable. Kohelet disait « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » C'est cyclique, rien ne change. Plus ça change, plus c'est la même chose. Vous avez tous entendu des phrases comme ça. Désorienté, pris dans la recherche du sens et dans le désespoir, telle était la situation de l'humanité jusqu'à la venue de la foi, de l'espérance en Jésus-Christ. Aucune religion, aucun effort philosophique ou spirituel de ce monde n'avait pu imaginer une telle intervention, qu'une intervention divine puisse véritablement changer le cours de l'histoire, puisse renverser la table. Et j'aime à penser que dans l'Évangile, un jour, Jésus a renversé des tables dans le temple. Quelle image extraordinaire! Au nom de cette intervention divine qu'est Jésus-Christ, Paul nous invite donc à changer de regard sur le monde, sur nous-mêmes, sur les valeurs économiques, sociales, politiques. Il s'agit d'une sorte d'ascèse, une sorte de jeûne qui dépasse la question de la nourriture, bien entendu. Par exemple, il ne s'agit pas de renoncer à la conjugalité, ce serait dangereux. Mais il s'agit d'enlever les majuscules que nous mettons d'habitude à toutes ces choses. Les majuscules que nous apposons devant l'argent, la consommation, le monde, etc. Un humoriste a dit un jour, la situation est désespérée, mais pas grave. Qu'est-ce qui ôte la gravité de ce désespoir? C'est l'espérance de la venue du royaume de Dieu dans tout son éclat qui a déjà eu lieu et en même temps qui aura encore lieu à la fin de l'histoire. On en arrive à la cause de ce changement de regard personnel. Paul dit « la figure de ce monde passe ». Le grec dit « le schéma de l'histoire », c'est-à-dire sa forme actuelle. La forme actuelle de ce monde passe. Il est déjà passé d'une certaine manière et Jésus nous en a donné les signes, le signal. Quand je ne sais pas si vous avez remarqué la frayeur des disciples à la multiplication des pains, par exemple, ou lorsque Jésus calme la tempête, ils ne s'en réjouissent pas, ils ont peur, ils s'effondrent. Pierre va jusqu'à dire à Jésus, « Retire-toi de moi, je suis un homme pêcheur, pas de poisson cette fois-ci. » D'où vient cette peur? Parce qu'ils ont pressenti quelque chose de géant là derrière, quelque chose d'incommensurable, un changement de monde. Les seuls qui étaient conscients vraiment de ce qui était en train de se passer, ce sont les démons. Dans Marc, justement, au chapitre 1er, Jésus prêche dans la synagogue de Capernaum. Et voici qu'un homme possédé d'un esprit impur se met à vociférer. « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu vivant? Je sais qui tu es venu pour nous perdre. » Alors eux sont au clair. Si nous étions aussi au clair qu'eux, mais nous nous réjouirions, nous ne serions pas comme ce démon, paniqués, effrayés, désespérés. Aussi, je vous invite à la joie, comme tu te disais au début. Nous pouvons nous réjouir. L'histoire a été cassée en deux par la venue, les paroles, les gestes, la mort est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus a troué l'histoire. La pierre a été roulée. Quel signe puissant. Vous êtes libre. Vous avez une espérance. Dieu est intervenu. Il est Immanuel, Dieu avec nous. Il l'est malgré nous, malgré notre indignité, malgré nos faiblesses, nos maladies. Oui, Dieu s'est rangé de notre côté. Il a eu pitié de nous et il nous a donné tout à travers son Fils. Jésus s'est livré pour nous comme une rançon qui nous libère. J'attendais un petit alléluia quand même. Lorsque Jésus commence à prêcher l'évangile de Dieu, j'aime bien cette expression d'ailleurs, chez Marc, il annonce, comme Jonas, un temps arrivé à son terme, mais contrairement à Jonas, il s'agit d'une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché et il appelle directement à un changement d'attitude. Repentez-vous, changez d'attitude, changez de mentalité, changez de regard. Tout cela est rendu possible justement par cette bonne nouvelle. Elle nous y autorise. Elle nous y autorise. Nous avons le droit de changer de regard. Ce n'est pas un ordre qui nous est donné, mais c'est une porte qui s'ouvre. Nous avons la possibilité et le droit de changer de regard, de redresser nos têtes, d'arrêter de culpabiliser inutilement et de louer le Seigneur. Comme disait un pasteur, nous sommes comme des enfants qui jouent dans de grasses prairies avec une tranquille indignité. Alain Ouzio. Oui, il appelle à un changement d'attitude, de mentalité. Le temps est accompli, dit Jésus. Ceci peut être compris de plusieurs manières, comme un mûrissement de l'histoire, ce qui est juste, mais aussi comme un accomplissement des Écritures et encore comme une obéissance parfaite à ce qui avait été ordonné, comme un parcours achevé. Sur la croix, Jésus dit « Tout est accompli ». L'univers touche à son terme. Un monde nouveau est en train de naître. Désormais, comme dit Paul, un autre regard est possible. Le temps de la peur est terminé. Le temps de la soumission aux puissances de l'univers, angélique, démoniaque, est terminé. Le temps de la condamnation et de la malédiction de la loi est fini. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir pour nous péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Nous connaissons ces paroles. Est-ce que nous en mesurons la portée, la profondeur, la grandeur, la largeur, la hauteur? Parce qu'elles expriment tout l'amour de Dieu. La loi a fini son règne. Jésus a été maudit par la loi pour que nous ne soyons plus maudits, mais que nous soyons bénis, simplement unis à lui. C'est le temps maintenant de la confiance. C'est le temps maintenant de l'espérance. C'est maintenant le temps de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Jésus partage avec nous son héritage, sa mission, son esprit. Ne crains pas, n'aie pas peur. Crois seulement, Église de Jésus-Christ, ne crains pas, n'aie pas peur. Crois seulement que Jésus a vaincu le monde, qu'il a ôté le péché du monde, qu'il a détruit le royaume des ténèbres et qu'il est avec toi par le Saint-Esprit. Voilà la part qui nous est offerte ce matin encore. C'est le temps, c'est le moment de Dieu. Et nous nous en réjouissons. Maintenant, n'avons-nous pas aujourd'hui quand même le sentiment de parvenir à des échéances solennelles ? Du point de vue sanitaire, politique, écologique ? Oui, nous vivons des temps solennels. D'ailleurs, ce sentiment ne hante pas seulement les chrétiens. Nous voyons de plus en plus de signes de peur panique chez nos contemporains. Il y a même des mouvements de survivants qui offrent des équipements, des stages et autres entraînements quasi-militaires. Ça se manifeste un peu partout. Je n'aimerais pas être à la place de nos gouvernants. C'est lourd à porter. Que faire? Que décider? Il y a des craintes pour l'alimentation, pour les ressources en eau potable, pour le climat, devant la pandémie. Les perspectives économiques sont sombres et il y a un grand désarroi, une grande désorientation, même si parfois certains tentent de donner le change. Comme à Ninive, notre époque est celle du non-sens, de l'errance, de la désorientation. Or, ces temps troublés ne pourraient-ils pas être compris par nous, chrétiens, comme favorables au témoignage à rendre à l'Évangile de Dieu ? C'est l'heure de l'Évangile. C'est le temps de l'Évangile plus que jamais. Amen. Alléluia. Restez fermes dans la foi, endurez l'épreuve que nous partageons avec le monde, priez comme Jésus nous l'a appris, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Oui, Jésus nous a enseigné à prier ainsi. L'épreuve, ce n'est pas seulement la tentation de faire quelque chose de mal, c'est un temps d'épreuve qui vient pour éprouver les habitants de la terre entière. Et Jésus a vu cette heure de l'épreuve qui vient pour éprouver les habitants de la terre. Et il nous a enseigné à la discerner nous aussi et à prier. Ne nous laisse pas entrer, abrège ces temps. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve qui pourrait nous emporter finalement, mais délivre-nous du mal. Comment Jésus-Christ va-t-il nous délivrer du mal ? En revenant. En revenant. L'histoire ne peut pas s'y opposer. Rien ne peut s'y opposer. Ce n'est qu'une question de temps. Nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, mais nous sommes invités à prier pour que cela vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dites-le avec moi. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia, c'est magnifique. Et Dieu entend cette prière. Et puis, restez fermes, endurez, priez, et surtout, nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Voilà un remède plus efficace que les masques ou le vaccin. Tout ceci nous indique un cap à suivre, mais tout ceci révélera aux yeux de toutes celles et tous ceux qui nous entourent la présence ici et maintenant d'un autre monde, de celui de Dieu, étroitement imbriqué dans l'ancien monde. Tout semble aller comme avant et pourtant tout est devenu nouveau pour nous en Jésus-Christ. Alors que, comme le priait l'apôtre dans une de ses lettres, que Dieu illumine les yeux de notre cœur, qu'il nous donne le discernement des temps et pourquoi pas un peu d'humour qui mette à distance l'angoisse des païens. Amen.